الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة هي ليلة الحادي والعشرين من شهر شوال عام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم والدرس هو الثاني عشر من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 16 août 2014 et ce soir, inshallah, nous allons entrer dans le 12e cours des trois fondements de l'imam, le grand savant Muhammad ibn Abd al-Wahhab رحمه الله تعالى.
La semaine dernière, nous avons terminé l'étude du premier fondement qui est la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu à travers ce premier fondement plusieurs choses, parmi lesquelles nous avons vu trois introductions de l'auteur, rahimahullah. La première concerne l'obligation de connaître quatre points. Qui peut me les citer ? Non. En français aussi.
La science.
Premièrement, la science. Qu'est-ce que la science?
C'est la connaissance d'Allah, la connaissance de la religion de l'islam par l'épreuve, la connaissance du prophète.
Allez, salam. Il manque quelque chose?
Avec l'épreuve.
N'oubliez pas ça. La religion d'Allah tabaraka wa ta'ala est une religion de connaissance avec l'épreuve. Deuxième point,
la mise en pratique.
La mise en pratique de quoi? De cette science. C'est-à-dire mettre en pratique ce qu'il découle de cette connaissance. Ce qui veut dire que ce qu'il est demandé aux musulmans, ce qui est demandé aux musulmans n'est pas simplement d'être connaisseur de ces choses-là, mais il doit les mettre en pratique. Ensuite,
appeler les gens à cette science.
Appeler les gens à Allah tabaraka wa ta'ala, à la religion d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quatrièmement, patienter sur les nuisances qui vont découler de ce prêche à Allah tabaraka wa ta'ala. D'où est-ce qu'on a pris ces quatre points et l'obligation de les connaître, Sofiane?
Surat
al-Asr. Taïf. Où exactement on les trouve?
Dans les versets.
Dans les versets, lesquels? Récite les versets.
Dans l'Asr.
Naam.
Al-Asr. Al-Insan la fi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu s-salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Donc, tu me fais le résumé de ces quatre points, où est-ce qu'on les trouve exactement? Le premier point, l'obligation de la connaissance, où est-ce qu'on le trouve?
Naam.
Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont eu la foi ou qui ont cru. Et ne peut avoir la foi que celui qui a une connaissance. Car tu ne peux avoir foi qu'en une chose que tu connais, n'est-ce pas? Où est-ce que l'on prend l'obligation de la mise en pratique, Ibrahim? وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, et qui ont mis en pratique les bonnes actions. Où est-ce que l'on prend, Abdallah, le troisième, c'est-à-dire le fait d'appeler Allah, Azza wa Jal, وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ, et qui s'enjoignent mutuellement la vérité. Où est-ce que l'on prend l'obligation de patienter devant les nuisances qui vont résulter de ce prêche à Allah? وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. بَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ. Également, l'imam al-Bukhari, rahimahullah, n'a-t-il pas cité un chapitre dans son recueil de hadith authentique qu'il a intitulé, Ibrahim, Bab al-ilm qabla al-qawli wal-amal, chapitre concernant l'obligation d'avoir la science avant même de parler ou de mettre en pratique. Puis il a cité le verset où Allah Azzawajal ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam la science. Avec cela, il a terminé la première introduction. La deuxième introduction est composée elle-même de trois parties. L'auteur, rahimahullah, dit qu'il est obligatoire à chaque musulman et musulmane de connaître ces trois points essentiels. Le premier, qui est-ce qui s'en rappelle ? Naam, Wissam.
ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا
نعم
فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار
exactement qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne la récompense. Le premier, qu'Allah nous a créé, octroyé la subsistance et ne nous a pas laissé nous en remettre à nous-mêmes ou bien sans but à observer. Au contraire, il nous a envoyé un messager. Ainsi, celui qui lui obéit entrera au paradis et celui qui lui désobéit entrera en enfer. Deuxième point, Sophia.
Il n'accepte pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans l'adoration, que ce soit un prophète, un ange ou autre chose.
Exactement. Le deuxième point, c'est qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'agrée pas, n'accepte pas, ne tolère en aucun cas qu'une adoration soit vouée à un autre que lui, que ce dernier soit un prophète, un ange ou autre, car cela relève de l'association à Allah tabaraka wa ta'ala. Le troisième point, Ibrahim, peut-être.
Celui qui prend Allah et son messager comme allié, comment prendre celui qui s'oppose à Allah et son messager comme allié?
Exactement, c'est le résumé. Celui qui obéit au prophète, alayhi salatu wassalam, et qui adore Allah d'un culte sincère, n'a pas le droit de prendre en allié ceux qui font scission avec Allah et son messager, quand bien même ceux-ci seraient leurs proches. Ensuite, il passe à la troisième introduction où il dit, où il nous enseigne ce que veut dire la Hanifiyya. Qu'est-ce que veut dire la Hanifiyya? Qui est la religion d'Ibrahim alayhi salam et de tous les prophètes. Abdullah.
C'est détourner d'eux, se pencher de shirk, se mettre en parallèle.
Presque. Entre dedans. Naam.
S'éloigner d'une chose pour aller vers une autre chose.
Ça, c'est le sens linguistique. Et dans le din, de quelle chose on s'éloigne et vers laquelle on va?
On s'éloigne du shirk.
Naam. Exactement. La hanifiyya, c'est le fait de pencher vers le tawhid en délaissant complètement ash-shirku billah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi est-ce que ici l'auteur nous parle de la Hanifiyya et il l'attribue à Ibrahim? N'est-ce pas que la Hanifiyya est la religion de tous les prophètes? Pourquoi Ibrahim particulièrement? Naam. Celui qui a accompli cette mission de la meilleure manière n'est autre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et car c'est sa voix. Quoi d'autre? Les chrétiens s'identifiaient à Ibrahim et s'apparentaient à ce dernier, de même que les juifs. Allah tabaraka wa ta'ala, et non pas seulement les chrétiens et les juifs, aussi le peuple de Quraysh. Souvenez-vous que quand le prophète alayhi salatu wassalam a conquis la Mecque, qu'est-ce qu'il a trouvé dans la Kaaba? Un dessin d'Ibrahim qui faisait al-istiqsam ou al-azlam, leur tirage au sort qu'ils faisaient avant de voyager, qui est du shirk, wa'ayadhu billah. Donc chacun disait, nous suivons Ibrahim, nous suivons Ibrahim. Allah Azzawajal leur a répondu en leur disant, ce qui veut dire que seuls les musulmans sont ceux qui suivent Ibrahim. Donc c'est comme si que Allah Azzawajal dans le Coran qui nous ordonne de suivre la religion d'Ibrahim, nous disait, il disait à tous ces gens-là, si vraiment vous êtes sincères dans votre prétention à suivre Ibrahim, alors voici la religion d'Ibrahim. Deuxièmement, pourquoi est-ce que ici est cité la milla de Ibrahim, la religion d'Ibrahim particulièrement? Parce que avec le prophète Ibrahim, Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré des choses qui ne cessent d'être valables jusqu'à cette époque. À titre d'exemple, Ibrahim, le hajj, le tawaf, la circoncision, le dhabh, le sacrifice de la bête, toutes ces choses-là ont été légiférées par Allah tabaraka wa ta'ala avec son prophète Ibrahim alayhi salam. Et ces choses ne cessent d'être valables jusqu'à cette époque. Sinon, tous les prophètes sont suiveurs de la Hanifiya, qui est la religion de monothéisme pur. Taïb. Ensuite, nous avons vu certaines adorations, et c'est ce que vous avez vu récemment. Tout cela pour vous montrer que nul autre qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Qui est-ce qui se souvient combien sont les catégories de khawf, de peur? Ibrahim. Elles sont de trois. Ibrahim numéro 2, tu confirmes? Cite-moi les trois que tu as à l'esprit. Non, je ne parle pas des trois termes qui sont en relation avec la peur. Je parle de l'khawf, la peur, celle-ci. Souviens. Il y a la peur naturelle. En quoi ça consiste? En quoi ça consiste la peur naturelle? Qu'est-ce que la peur naturelle?
Le réflexe sur la peur d'un animal.
Par exemple, une peur naturelle. La peur de se faire mal. La peur de l'ennemi, la peur de l'animal, etc. Deuxièmement, quel est le jugement de cette peur? C'est interdit? C'est autorisé. Taïd. Ensuite, souviens? La peur dite, ou la peur qui fait partie du shirk, wal'ayadu billah. Comment elle s'appelle exactement? Khawfus? Hein? Pourquoi tu chuchotes? Il répond tout seul. Il se parle tout seul. Moi, je cherche des gens qui me répondent à moi. Je ne cherche pas des gens qui se répondent tout seul. Khawf ou sir, la peur secrète. Pourquoi secrète? Parce qu'elle est cachée? Parce qu'elle vient du cœur? Quoi d'autre? Parce que celui qui éprouve cette peur ne l'éprouve que en croyant que celui qu'il redoute ou dont il a peur est capable de faire des choses que seul Allah est capable de faire. C'est une croyance cachée en lui qui le pousse à associer Allah tabaraka wa ta'ala. Et elle consiste à craindre un autre qu'Allah comme on craint Allah ou plus. Donc ce n'est plus une question de peur naturelle. Troisièmement, Abdullah. Naam, la peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc cet acte est un acte d'adoration. Quatrièmement, la peur interdite, haram, elle est interdite mais ce n'est pas du shirk. Donc elle est différente de la peur qui fait partie de l'association. En quoi est-ce que ça consiste, Ibrahim? Pas du tout. Tu as essayé. Jazakallah khairan. Oui, Sam. La peur des hommes. C'est-à-dire, si tu rencontres l'ennemi, tu as le droit d'avoir peur. La peur naturelle. Pas celle qui te fait désobéir à Allah. Je vous ai donné un indice là. Sofiane.
Par exemple, quelqu'un a la peur de son père. Son père lui dit on va acheter des cigarettes. Et lui, il sait très bien que c'est haram.
Exactement. C'est la peur qui conduit à une chose interdite. C'est la peur qui à la base est naturelle, mais elle arrive à une limite où elle conduit à une chose interdite, donc elle devient interdite cette peur. À l'exemple de l'enfant qui craint son père, ce qui est naturel et permis, mais qui dépasse les limites dans cette crainte à un point où quand son père lui demande de faire une chose interdite par Allah, il l'a fait à cause de cette peur-là. Cette peur-là est interdite. C'est un péché. Certains savants ont même dit que c'est du shirk asrar. Cinquièmement, et la dernière, c'est la peur de rien. La personne qui a peur de l'ombre, qui a peur d'un bruit, qui a peur de choses imaginaires. Cette peur-là, elle est blâmée dans le Coran, dans la Sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah tabaraka wa ta'ala de le protéger. C'est ce qu'on appelle al-jubn. Et avant de dans les invocations du soir, le prophète alayhi wa sallam dit wa'udhu bika min al-jubni wal-bukhl. Je recherche ta protection contre la lâcheté et l'avarice. Et les adorations sont plus nombreuses et on s'arrêtera ici, inshallah. Maintenant, nous allons entrer dans le deuxième principe, le deuxième fondement. L'auteur a dit, rahimahullah, Al-aslu thani, ma'rifatu dini l'islami bil adillah. وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان. Le deuxième fondement, c'est la connaissance de la religion de l'islam par l'intermédiaire de preuves. L'islam consiste à se soumettre à Allah en pratiquant le monothéisme, se soumettre à lui, en lui obéissant, désavouer totalement le polythéisme et ses partisans. Il se divise en trois degrés, l'islam, la foi, l'excellence. Al-islam, al-iman ou al-ihsan. Chaque degré repose sur des piliers. Voici donc l'auteur, rahimahullah, qui entre dans le deuxième fondement, qui est la connaissance de l'islam. Car toute personne qui connaît Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est donc le premier fondement, doit connaître ce qu'Allah veut de lui, ou d'elle, pardon. Et ce qu'Allah, azza wa jal, veut de nous n'est autre que l'islam, la mise en pratique de cette religion qu'il a légiférée, avec laquelle il a envoyé des prophètes et révélé des livres, subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'auteur ici va nous donner la définition de l'islam que nul n'est censé ignorer. La définition complète de l'islam et du terme islam. Il nous dit donc que l'islam, la définition en arabe, c'est al-istislamu lillahi bit-tawhid wal-inqiyadu lahu bit-ta'a wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi. Ce qui veut dire la soumission totale à Allah en pratiquant le monothéisme. Qu'est-ce que l'islam? Voici la réponse. L'islam est la soumission totale à Allah en pratiquant le monothéisme, en se soumettant à lui, en lui obéissant et en se désavouant totalement du polythéisme et de ses partisans, c'est-à-dire des polythéistes. C'est la définition que vous avez notée dans votre livre. Al-istislam, ce qui est traduit par la soumission. Vous voyez que islam et istislam, nous retrouvons les trois mêmes lettres de base qui sont le alif, le lam, ou pardon, le sin, le lam et le mim. Voici les trois lettres de base. Le sin, lam, mim. Et à la base, ces trois lettres veulent dire le fait de délaisser toute divergence et toute contradiction. Tarkul munaza'a. C'est pour cela qu'on dit de la personne qui est malade et qui a atteint un niveau de maladie tel qu'elle est presque convaincue qu'elle va mourir. Fulanun istaslama lil maut. Un tel s'est soumis à la mort, c'est-à-dire il s'est laissé. Il s'est laissé mourir, parce qu'il sait qu'il va mourir. Pareil pour l'ennemi qui combat, et quand il se voit perdant, qu'est-ce qu'il fait ? Yastaslim, il se rend. Il arrête de contredire celui qui est en face de lui. L'islam, c'est le fait d'arrêter de contredire les messagers d'Allah, tabaraka wa ta'ala, qui nous ont appelés à l'unicité d'Allah. Comment ? En se soumettant aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment est-ce que l'on se soumet aux ordres d'Allah ? En pratiquant le monothéisme, c'est-à-dire en adorant qu'Allah, azza wa jal. Voici la soumission à Allah. Puis, en se soumettant à lui avec l'obéissance, en mettant en pratique ses ordres et en délaissant ses interdits. Et cette partie n'est pas suffisante. Cette partie n'est pas suffisante. Il manque la dernière, qui est le fait de se désavouer totalement du polythéisme et des polythéistes, du shirk et des mushrikoun. Le fait de se désavouer de cet acte abominable qui élève le fait d'adorer un autre qu'Allah, Azza wa Jal, et de se désavouer également des associataires. Et ici on voit l'importance de ce qu'on appelle al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu. Nous avons vu un chapitre où on a cité les différentes catégories d'alliance et de désaveu, celles qui ont lieu entre les croyants, celles qui ont lieu entre les croyants et les mécréants, n'est-ce pas ? Cela est une base essentielle de l'islam. Ainsi, toute personne qui dirait qu'il ne faut pas se désavouer du shirk, même si cette personne n'adore qu'Allah tabaraka wa ta'ala et ne fait pas de shirk, mais elle ne se désavoue pas du shirk, cette personne n'est pas musulmane. Car le musulman doit se désavouer du shirk, il doit renier le shirk et les associateurs. D'où la gravité de la parole proférée par ceux qui, à cause de leur ignorance, malgré le fait qu'ils prétendent la connaissance, disent que le croyant ne doit pas détester totalement le kafir. Wal'iyadhu billah. Et cette parole a été dite dans un endroit très proche de cette ville, qui est la ville de Stain, par un individu qui prétend à la science, mais qui, avec cette parole, a montré combien est grande son ignorance. Wal'iyadhu billah. Comment dire une telle parole alors que les versets dans le Coran qui nous montrent que le croyant doit détester le shirk et les mushrikoun sont très nombreux, tellement nombreux que seul un insouciant peut ne pas les voir, un aveugle du cœur peut ne pas les voir. Wal'iyadhu billah. Donc cela est une base de l'islam et qu'il ne faut pas annuler. Al-wala ou al-bara, l'alliance et le désaveu, est un fondement sur lequel repose la religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Voici la définition de l'islam. Puis l'auteur a dit, wa huwa thalathu maratib. Thalathu maratib. Mais d'abord, avant d'entrer dans les trois degrés de la religion, l'islam, qui est la soumission à Allah Azza wa Jal, se divise en deux. Il y a la soumission aux ordres d'Allah Azza wa Jal, les ordres et les interdits dans le Coran, dans la Sunna. Il y a la soumission aux décrets d'Allah. Et on en a parlé dans le dernier cours. La soumission aux décrets d'Allah, c'est une chose qui concerne tout le monde. Et personne ne peut l'éviter. Une personne qui a faim est soumise à aller manger. Une personne qui est malade est soumise à se soigner. Une personne qui est fatiguée est soumise au repos. Et en cela, nous sommes tous soumis à Allah, Azza wa Jal, les croyants et les mécréants. Ce n'est pas cette soumission qui est demandée à l'homme, car elle est inévitable. Celle qui est demandée à l'homme, c'est la soumission aux ordres d'Allah, Azza wa Jal, aux ordres et aux interdits. L'islam est de trois degrés. La religion d'Allah, tabaraka wa ta'ala, se divise en trois degrés. Ce qu'on appelle l'islam, ce qu'on appelle la foi et ce qu'on appelle l'excellence. Chaque degré va être détaillé par l'auteur. Incha'Allah ta'ala, Et vous verrez que ces trois degrés sont tirés d'un hadith qui est très célèbre, que nous allons lire, inshallah, bientôt. L'auteur a dit « Wa kullu martabatin laha arkan ». Chacun de ces trois degrés a des piliers. C'est-à-dire, pour qu'il soit complet, il a des piliers. L'islam a des piliers, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle les cinq piliers de l'islam. La foi a des piliers. L'excellence a des piliers. Et la preuve se trouve dans le hadith Jibril, qui est rapporté par Muslim. C'est le hadith qu'on lira un peu plus loin, inshallah. Et je recommande d'ailleurs à chacun d'entre vous de mémoriser ce hadith, en raison des sens riches qu'il contient. Alors, l'auteur va passer aux cinq piliers de l'islam. Il dit, les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Qui est-ce qui va me citer les cinq piliers de l'islam? Al-Hassan. Le premier, c'est l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. La prière, l'aumône, le jeûne de Ramadan et enfin le Hajj, le pèlerinage de l'islam. Il est connu que le pilier, c'est ce sur quoi on pose. Est-ce que donc cela veut dire que l'islam n'a que cinq obligations? Non, l'islam a plus d'obligations. Pourquoi est-ce qu'on appelle ces choses-là piliers de l'islam alors? Oui, ça.
Un pilier, quand on le fait pas.
Je vous explique. Il essaie de gagner du temps. Sinon, il aura répondu directement. Ibrahim? Exactement. Ces cinq choses sont les plus grandes obligations. À un point où elles sont comparables à des piliers. Et aussi parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Bouni al-Islam wa ala khams. L'islam a été bâti sur cinq et il a cité ses cinq obligations. D'où l'appellation les cinq piliers de l'islam. L'auteur a dit Fa arkanul islami khamsa. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa sawmu ramadan wa hajju baytillahi al-haram. Les piliers de l'islam sont au nombre de cinq. Prononcer l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Accomplir la prière. S'acquitter de l'aumône. Jeûner le mois de Ramadan. Et effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Puis l'auteur va nous citer les preuves pour chacun de ces cinq piliers. En commençant par l'épreuve de l'attestation de foi, qu'elle est un pilier de l'islam. Il nous dit فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Il cite comme preuve, le verset où Allah Azzawajal dit ce qui veut dire, Allah atteste que nul ne mérite d'être adoré sauf lui. De même, attestent cela les anges et les gens doués de science, et ceci à juste titre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui, le Tout-Puissant, le parfaitement sage. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a attesté lui-même que nul autre que lui n'a le droit à l'association, à l'adoration. Il a attesté également que les anges témoignent que le seul à mériter l'adoration est Allah. Et de même, les savants, les connaisseurs de la religion, ceux qui connaissent Allah, Azza wa Jal, attestent véritablement, c'est-à-dire qu'ils attestent de par leur connaissance, avec leur cœur, avec leurs actes, avec leur mode de vie, avec leur pratique, ils vivent, ils attestent, ils témoignent que nul autre qu'Allah Azza wa Jalla n'a le droit d'être adoré. Et dans ce verset, nous voyons un mérite des gens de science et le mérite de la science. Et l'imam Al-Qurtubi rahimahullah a dit que s'il y avait des gens plus nobles que les savants, Allah subhanahu wa ta'ala les aura cités dans ce verset quand il a parlé de ceux qui témoignent. Il y a Allah, les anges et les gens de science. Ça veut dire que les gens de science sont les meilleurs des gens sans le moindre doute. Que dire alors de ceux qui font fuir les gens de la science et qui désencouragent les gens à l'apprentissage de la religion d'Allah et qui n'encouragent pas les gens à connaître les savants de la sunna? Que dire de tout cela après entendre un tel verset? Et donc le Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah a dit que ce verset montre la grande place qu'occupent les gens de science chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu par les gens de science, est-ce que ce sont ceux qui ont la connaissance de choses de science dans ce bas monde? Est-ce que quand Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran nous parle de science et de savants, il nous parle de savants de la biologie, de la chimie, de la physique, des maths, de la médecine? Non. Il nous parle que des savants de l'islam, que des savants de la religion. Lorsqu'Allah ou le prophète alayhi salatu wassalam parle de science ou de savants, sachez que la science voulue ou les savants voulus ne sont rien d'autre que la science de la religion d'Allah et les savants de la sharia, les savants de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah Azza wa Jal a réitéré à la fin du verset La ilaha illahu. L'auteur va nous en donner le sens de cette parole La ilaha illallah, que personne n'a le droit d'ignorer. Il va nous donner son sens et nous citer un certain nombre de versets qui appuient ce sens, pour nous montrer qu'il a compris le sens de ces versets, de cette parole La ilaha illallah à travers ces versets. Et ainsi doit être le croyant. Il ne comprend sa religion qu'avec les textes. Il dit وَمَعْنَاهَا لَا مَعْبُودُ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ. Et le sens de cette parole لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهِ veut dire لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah. Voici le sens de la ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah n'a le droit à l'adoration. Il n'y a de divinité méritant réellement l'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Se sont égarés de cette compréhension beaucoup de gens qui prétendent la bonne compréhension de l'islam. Certains ont dit la ilaha illallah signifie la khaliqa illallah. Il n'y a de créateur que Allah. Cette parole est vraie, mais est-ce qu'elle est le sens voulu de la ilaha illallah? Elle n'est pas le sens voulu de la ilaha illallah. Certains disent la hakima illallah. Il n'y a de juge qu'Allah. Est-ce que cette parole est véritable? Oui. Mais est-ce que c'est ce qui est voulu de la ilaha illallah? Non. D'autres, pire encore, jama'atu tablir, les partisans du tablir, dont j'ai rencontré un il n'y a pas si longtemps que ça, disent dans leur livre, l'auteur, le fondateur de ce groupe qui se nomme Mohamed Ilyas, disent que la ilaha illallah signifie de faire sortir le tout doute du cœur et d'y mettre à la place la certitude. Où est-ce qu'il y a ce sens dans la ilaha illallah? La réponse, nulle part. C'est une pure invention. Ainsi, ils doivent se corriger et apprendre leur religion sans s'enfler d'orgueil et accepter la vérité, car c'est cette vérité qui nous conduira ensemble, inshallah, au paradis d'Allah, tabaraka wa ta'ala. La ilaha illallah, le terme ilah, vient du verbe arabe alaha ya'lahu. Le verbe alaha signifie adorer. C'est le verbe adorer. C'est le même sens que abada. Alaha et abada sont deux verbes arabes qui signifient adorer. Il n'y a aucune différence. Ensuite, le terme ilah, à la base, c'est ma'louh. Tout comme le mot kitab, à la base, c'est maktoub. Ou bien le mot firash, à la base, c'est mafrouche. Pareil pour ilah, à la base, c'est ma'louh. Ma'louh, c'est celui qui est adoré. Le livre que l'on appelle kitab, à la base, il y a une autre forme du mot qui est maktoub, ce qui est écrit. Et le livre, on l'appelle kitab en arabe parce que c'est quelque chose de maktoub, quel qui est écrit. Pareil pour le lit, firash. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle firash? Parce que c'est quelque chose qui est mafrouche, c'est-à-dire qui est étalé au sol. Eh bien, ilah et ma'louh, c'est la même chose. Donc la ilaha, ce qui est voulu par ilah, c'est la divinité, c'est ce qui est adoré. La ilaha. Dans cette phrase, il y a une négation suivie d'une affirmation. Ce qu'on appelle les piliers de la ilaha illallah. Le premier pilier, c'est la ilaha. La négation. C'est une négation générale. C'est une négation du droit de l'adoration pour tout autre qu'Allah. Azza wa Jalla, la ilaha. Ensuite, illallah, sauf Allah. C'est une affirmation particulière. On a affirmé particulièrement à Allah seul le droit à l'adoration. Pourquoi est-ce que Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, a dit que la ilaha illallah signifie la ma'bouda bi haqqin illallah? Il n'y a de divinité digne réellement d'être adoré qu'Allah, ou bien nulle divinité ne mérite l'adoration sauf Allah. Il a compris ça d'où? Du terme ilah. Le mot ilah, il veut dire divinité, celui qui est adoré. Donc quand Allah Azza wa Jalla a dit la ilaha illallah, il n'y a aucune divinité sauf Allah, c'est-à-dire il n'y a aucune divinité méritant l'adoration sauf Allah. Car il y a des divinités, n'est-ce pas? Le soleil est adoré en dehors d'Allah, la vache est adorée en dehors d'Allah, la croix est adorée en dehors d'Allah, telle et telle chose est adorée en dehors d'Allah. Donc, est-ce que ce qui est voulu, c'est de nier l'existence de divinité? Non. Ce qui est voulu, c'est de nier le droit à l'adoration pour ces divinités adorées faussement. La ilaha la ma'bouda bi haqq. Nul divinité, il n'y a aucune divinité méritant réellement l'adoration illallah. D'où est-ce que cela vient? Du Coran. Et c'est ce que vous allez voir à travers les versets que Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimallah a cité pour montrer le sens de la ilaha illallah. Il dit la ma'bouda bi haqqin illallah. La ilaha nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Illallah muthbitan al-ibadata lillahi wahdahu la sharika lah fi ibadatihi. كما أنه لا شريك له في ملكه. Ce qui veut dire, le sens de cette attestation est littéralement nul ne mérite véritablement l'adoration sauf Allah. La première partie, nul ne mérite, renie toute forme d'adoration à tout autre qu'Allah. Azza wa Jalla. C'est le premier pilier, c'est la négation. La seconde partie, sauf Allah, confirme que tout acte d'adoration doit être réservé à Allah, sans qu'il n'ait aucun associé dans celui-ci, de la même façon qu'il n'a aucun associé dans son royaume. Et cette phrase, qui est composée d'une négation et suivie d'une affirmation, a pour but l'unicité ou le monothéisme. Car si je dis, je veux vous donner un exemple pour vous montrer que la négation suivie de l'affirmation indique l'unicité de la chose. Si je dis « Abdullah est assis », est-ce que avec cette phrase vous comprenez que seul Abdullah est assis? Vous m'avez entendu? Répondez. Non, n'hésitez pas. Taïeb. Par contre, si je dis « nul n'est assis sauf Abdullah. Qu'est-ce que vous comprenez? Que le seul qui est assis est Abdullah. Pareil, si je dis Allah est celui qui mérite l'adoration ou Allah mérite l'adoration, on ne comprend pas qu'il est le seul à mériter. Par contre, si je dis nulle divinité ne mérite l'adoration à part Allah, j'ai nié pour tout le monde, j'ai excepté un, j'ai nié pour tout le monde et j'ai affirmé pour un seul. Vous comprenez? Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Cette parole a deux piliers, négation, affirmation. La négation pour le droit de l'adoration à tout autre qu'Allah. L'affirmation du droit de l'adoration à Allah seul. C'est le sens de la ilaha illallah. L'auteur dit, donc il nous a défini le sens de la ilaha illallah, et le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a cité donc ce que vous venez d'entendre et ce que l'on vient de résumer. L'auteur a dit وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. Il cite un certain nombre de versets qui sont des preuves qui nous montrent le sens de la ilaha illallah. Tout ça pour nous montrer que nous, musulmans, nous devons tirer la compréhension de notre religion des textes du Coran, non pas de personnes qui innovent dans la religion d'Allah et qui apportent des choses nouvelles qui ne sont légiférées en aucun cas par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il dit l'interprétation de cette attestation, c'est donc le sens de cette parole, est clairement expliqué dans la parole suivante d'Allah Azza wa Jal, donc la traduction, et c'est dans Sourate Az-Zukhruf, les ornements. Allah dit ce qui veut dire, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guidera. Il transmit alors cette parole à ses descendants afin qu'ils se repentent de leur polythéisme ou bien afin qu'ils reviennent vers Allah. Qui est-ce qui peut me tirer de ce verset la compréhension de la ilaha illallah? Naam. Tu as mal au dos?
Ouais.
Tu as mal au dos?
Ouais.
Tu es en bonne santé?
Ouais.
Avance, ne t'appuie pas derrière. Naam.
C'est-à-dire la négation, une négation plus qu'il y a dehors dans la masse, c'est-à-dire qu'il soit les mages, les idoles.
D'accord.
C'est faux.
D'accord. Donc ici, premièrement, voilà, ça c'est la première partie. Ibrahim alayhi salam dit, je me désavoue totalement de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Ici, il a nié. Puis il a dit,
il a dit,
à l'exception de celui qui m'a créé. Je me désavoue de tout ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. Nulle autre divinité qu'Allah mérite l'adoration. Comprenez? Et regardez ce qui est dit ensuite. Il transmit alors cette parole à ses descendants. Quelle parole? La ilaha illallah. Donc, il nous montre clairement que le sens de la ilaha illallah, la parole transmise par Ibrahim à ses descendants, c'est de se désavouer de l'adoration de tout autre qu'Allah Azza wa Jal et d'affirmer que seul Allah a droit à l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim a dit innani bara. Innani bara. Bara vient de al-bara'a. C'est le désaveu. Le fait de se déclarer innocent de cette chose et de s'en désavouer. Ibrahim s'est déclaré innocent de l'association et s'en est désavoué, ainsi que de ses partisans, les associateurs. Puis quand il dit « Illa alladhi fatarani », c'est-à-dire « à l'exception de celui qui m'a créé », Fatara veut dire khalaqa, créer. Il vient par là confirmer le sens de illallah, subhanahu wa ta'ala. Tayyib, alaykum salam wa rahmatullah. Deuxième verset, l'auteur a dit wa qawluhu قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Traduction du verset. Ô vous, les gens du livre, dit. Ô vous, les gens du livre. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala ordonne au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux gens du livre. Qui sont les gens du livre? Les juifs et les chrétiens. Ô vous les gens du livre, venez à une parole commune entre vous et nous. Que nous adorions Allah, que nous n'adorions qu'Allah, que nous ne lui associons rien et que nous ne prenions personne d'autre, personne d'entre nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis, s'ils vous tournent le dos, dites-leur, soyez témoins, que nous sommes soumis à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Voici la définition de la ilaha illallah. Allah tabaraka wa ta'ala dit à Ibrahim alayhi salam, dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, d'interpeller les gens du livre en leur disant, on vous invite à une parole commune entre nous, ou entre vous et nous. Quelle est cette parole? Que nous n'adorions qu'Allah. Ça, c'est le sens de la ilaha illallah. C'est ça la parole qui est voulue ici. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. Qu'est-ce que veut dire cette parole? Que nous adorions Allah, que nous ne lui associons rien et que nous ne prenions personne d'autre d'entre nous pour Seigneur en dehors d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam d'annoncer aux associateurs parmi les gens du livre, qui sont les juifs et les chrétiens, que le seul méritant l'adoration n'est autre qu'Allah, et que c'est cette parole avec laquelle les prophètes ont été envoyés, à la tête desquels Muhammad, alayhi salatu wa salam, qui en est le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'Allah lui dit, dis, ô vous les gens du livre, je vous invite à une parole. Quelle est cette parole? La ilaha illallah. L'auteur a dit « ودليل الشهادة أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم » La preuve de l'attestation que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est la parole d'Allah, c'est donc la traduction. Certes, un messager issu d'entre vous vous est bel et bien venu, auquel pèsent lourd les difficultés que vous portez. Il est soucieux de votre bien-être et de vous éviter tout préjudice. Il est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans ce verset, alaykum salam, l'envoi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a dit que ce messager a été envoyé par Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il est soucieux pour notre guidée sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur va nous citer le sens de cette attestation en nous disant wa ma'na shahadati anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. Il va citer quatre choses qui sont les implications du témoignage que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que toute personne qui dit ashhadu anna Muhammadan rasulullah doit savoir que cette parole, ce témoignage, implique quatre choses. D'où est-ce que viennent ces quatre choses? Elles ne viennent de nulle part ailleurs que du Coran et de la Sunna, comme vous allez voir, Inch'Allah Ta'ala. Il dit, le sens de cette attestation est, premièrement, obéir à tout ce qu'il a ordonné, croire sincèrement en ses paroles révélées, s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé, n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est voulu par le mot shahada, témoignage ou attestation, c'est le fait de prononcer et de témoigner avec la langue, de prononcer et d'attester la croyance qui est dans notre cœur. Ce n'est donc pas qu'une parole, mais elle doit être accompagnée d'une croyance. Et c'est donc le fait de témoigner avec la langue de ce qu'il y a dans le cœur que Muhammad, le fils de Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam, est celui qu'Allah a choisi pour l'envoyer à l'ensemble des mondes, aux djinns, aux hommes, afin qu'ils n'adorent qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut adorer Allah qu'en suivant ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il cite les quatre implications en disant la première chose, c'est d'obéir à tout ce qu'il a ordonné. La deuxième chose, croire sincèrement en ses paroles révélées. Et certains, alaykum salam, shurrah, certains savants qui ont commenté l'usul al-thalatha ont dit que s'il avait dit premièrement croire sincèrement en ses paroles, tasdiquhu fima akhbar, puis après ta'atuhu fima amar, obéir à tout ce qu'il a ordonné, ça aurait été meilleur. Puisque obéir est le fruit de la croyance. Mais ce n'est pas un grand problème. Premièrement, obéir à tout ce qu'il a ordonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman doit obéir aux ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans polémiquer, sans débattre, sans s'opposer. Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui s'opposent à son commandement, que ne les touche un trouble ou que ne les touche un châtiment douloureux. Un châtiment douloureux. Le commandement ici, c'est le commandement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a ordonné d'obéir au prophète sallallahu alayhi wa sallam à un point où l'imam Ahmed rahimahullah a dit: nadartu fil mushaf fawajadtu anna Allah azza wa jal amarana bi ta'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi akthara min 33 mawdi'a. J'ai médité le Coran, je me suis aperçu qu'Allah nous a ordonné d'obéir à son prophète plus de 33 fois dans le Coran. Pourquoi? Parce que l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obéissance à Allah. Allah azza wa jalla a dit: وَمَنْ أَطَاعَ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. Et celui qui a obéi au messager a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, تَصْدِقُهُ فِيمَا أَخْبَرْ. Croire sincèrement en ses paroles révélées. Croire que tout ce qui sort de la bouche du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une vérité. Il ne faut pas douter. Il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas s'opposer. Il ne faut pas mécroire à ces informations sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un compagnon qui était chargé de noter. Il était chargé d'écrire et d'enregistrer tout ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que le peuple de Quraysh lui a dit: innaka taktubu kulla shay'in sami'tahu min rasulillah wa rasulullah bashar yatakallamu fil ghadab war rida. On te voit écrire tout ce que tu entends du messager d'Allah, et ce n'est qu'un homme. Il parle sous l'effet de la colère, il parle sous l'effet de la joie, et ils ont voulu par ça le dissuader d'écrire. Il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'informer de ce qui s'est passé. Et le prophète lui a dit: Oktub walladhi nafsi biyadih la yakhruju min hadha illa haqq. Écris, car par celui qui détient mon âme dans sa main, ne sort de cet endroit que la vérité, en montrant sa bouche, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran: wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Tout ce qui vient de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas une chose qu'il a prononcée après ou sous l'effet de la passion, mais ce n'est que ce qu'Allah lui a demandé de dire sallallahu alayhi wa sallam. Troisième chose, وَجِتِنَابُ مَا عَنْهُ نَهَا وَزَجَرُ, c'est-à-dire s'éloigner de tout ce qu'il a interdit et réprimé. Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا, et ce que le messager vous a donné, prenez-le, et ce que le messager vous a interdit, abstenez-vous-en. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَمَنْ عَصَانِي دَخَلَ النَّارِ, et celui qui m'a désobéi entrera dans le feu. Donc le musulman n'a pas le droit de faire ce qui est rendu interdit par le prophète Mohammed. Alaykum salam wa rahmatullah. Sallallahu alayhi wa sallam. Le quatrième point, Allah yu'bad Allah illa bima shara', n'adorer Allah que selon ce qu'il nous a légiféré. C'est ce que on verra la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.